On va peut-être faire la réunion d'hommes le 13 décembre, c'est un samedi, un matin. Donc les hommes, vous me dites si vous... Alors qui ici aimerait avoir une vie maudite? Qui aimerait avoir une vie bénie? Bon, alors c'est pour vous le message de ce matin. Tout le monde veut avoir une vie bénie, n'est-ce pas? Mais notre Seigneur a une façon de régir la terre. Il est le roi de toute la terre, il est le souverain, et il veut régir aussi notre vie par certains principes. Et si on ne suit pas les principes de Dieu, on ne peut pas avoir une vie bénie. Il y a un proverbe qui est très important, que l'on cite souvent, que j'aimerais lire ce matin en introduction, Proverbe 3, versets 5 et 6, donc dans le livre des Proverbes de Salomon. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel, la foi, hein, se confier, faire confiance à Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. On ne le voit pas, on ne l'entend pas forcément avec ses oreilles. Mais Dieu existe, Dieu est là et il veut qu'on lui fasse confiance, qu'on mette notre confiance en lui de tout ton cœur, pas à moitié, pas une confiance païenne, un peu on dit, oh j'espère que Dieu va pas me faire tomber le ciel sur la tête, mais qu'il y ait une confiance profonde, intime, personnelle avec Dieu. Et puis, il est écrit hein, dans l'Épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, quand on prie Dieu, il répond. Il répond à ceux qui le cherchent. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, c'est-à-dire ta façon de penser à toi, ton opinion, ta manière de faire. Ne t'appuie pas sur tes habitudes ou sur tes traditions, je ne sais pas. Confie-toi en l'Éternel. Reconnais-le dans toutes tes voies, c'est-à-dire dans tout ce que tu fais, dans tes projets, dans ton travail, dans ta famille. Cherche la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma famille, pour mon travail, pour mes projets? Cherche la volonté de Dieu, cherche la gloire de Dieu. Est-ce que ce que je fais là est en train de glorifier mon Dieu? Ou est-ce que c'est juste pour ma gloire personnelle, mon plaisir personnel? Et il aplanira tes sentiers. Tu auras une vie justement bénie. Aplanira tes sentiers, c'est une image hein, de l'époque, parce qu'à cette époque-là, les grands rois ou les grandes reines faisaient des travaux pharaoniques, c'est le cas de le dire. Dans leur pays, quand ils avaient le pouvoir. Et en général, lorsqu'ils faisaient une route d'une ville à l'autre, ils aplanissaient les collines, c'est-à-dire la colline était coupée par des centaines, des milliers d'ouvriers ou d'esclaves, et le chemin devait être plat d'une ville à l'autre. Et c'est cette image-là hein, qui est mentionnée, il aplanira tes sentiers, c'est-à-dire Dieu va couper les collines, les montagnes, et il va te donner cette vie paisible, cette vie apaisée, cette vie droite, cette vie bénie. Alors, ici, dans ce proverbe, on voit qu'il y a deux directions hein, pour notre vie. Il y a soit selon notre propre sagesse, soit selon la volonté, la foi en Dieu. Confie-toi en l'Éternel ou appuie-toi sur ta propre sagesse. C'est ça le choix. Et ça va donner des conséquences évidemment différentes. Notre propre sagesse, notre propre raisonnement, ben c'est ce qu'on utilise naturellement, forcément, puisque c'est là. Dieu m'a donné un cerveau, je réfléchis. Dieu m'a donné une éducation par mes parents. J'ai une culture de mon pays, une éducation que j'ai eue à l'école. Tout cela, ben ça va être la base pour mes raisonnements, mes opinions, et je vais fonctionner avec ça. Sauf que la Bible dit qu'il y a un problème avec ma sagesse ou la sagesse du monde. C'est que cette sagesse, n'est pas basée sur la sainteté, la pureté, la droiture, la justice. Elle est basée sur l'être humain, le cœur humain. Et le cœur humain, la Bible nous dit qu'il est tortueux. il est malade, il est méchant. Et quand on base sa vie sur son propre cœur méchant, on arrive à des mauvais chemins, à des impasses, à des précipices. C'est pour ça que Dieu dit « Ne te confie pas dans ta propre sagesse ». Notre propre sagesse va nous faire défaut. Elle est très limitée d'abord. On ne peut pas tout connaître. Est-ce qu'on a tous les paramètres pour prendre toutes les décisions? Non. Pour chaque chose, chaque petite décision, il y a des millions de paramètres. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on sait comment ça va finir finalement à la fin? Non, on ne connaît pas le futur. Est-ce qu'on connaît toutes les interactions qui vont arriver, qui peuvent changer? Non. Quand vous faites un projet, on a besoin de faire des projets évidemment, sinon on n'avancerait pas dans la vie. Mais quand on fait un projet, est-ce qu'on dit voilà, alors je vais faire point 1, point 2, point 3, et puis est-ce que ça arrive toujours, vos points 1, point 2, point 3? Non, il y a toujours un truc qui arrive au milieu et qui ruine vos projets. Alors il faut s'adapter, mais ce que Dieu dit, c'est que tes projets, tu dois les mettre à Dieu, tu dois les confier à Dieu, tu dois reconnaître Dieu dans tes projets, dans toutes tes voies, tous tes chemins. Et puis la sagesse humaine, elle n'est pas sainte, hein? Donc elle peut avoir des mauvais motifs, des mauvaises raisons. Elle est trompeuse parce qu'on croit que voilà, j'ai fait mes projets, donc c'est bon maintenant. Hein. Moi, j'ai tout planifié pour ma vie. Je travaille encore 5 ans ou je travaille 10 ans et puis après, je prends ma retraite ou après, je fais 6. Et on a tout planifié notre année. Voilà, en décembre, on va aller à tel endroit. Et puis, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on aura la vie jusque-là? On ne sait pas. Est-ce qu'on ne va pas tomber malade? Est-ce qu'on ne va pas être au chômage? Est-ce qu'il peut arriver 1000 choses? Et même le pire, la mort. Proverbe 14:12. Telle voie, tel chemin paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça, c'est la pire des illusions. De dire, tout va bien pour moi, j'ai tout planifié, je suis quelqu'un de bien, lorsque j'arriverai à la fin de ma vie, ce sera béni, tout sera merveilleux, et puis à la fin de votre vie, c'est la mort. C'est l'échec. Beaucoup de gens avaient une vie merveilleuse et puis il y a eu un divorce et leur vie a été tourneboulée complètement. Ce qui était béni devient une malédiction. Il y a des personnes âgées qui sont à la retraite depuis longtemps et ils sont dans l'amertume, ils sont aigris. Disent, oui, au moment de partager l'héritage, hein, mes enfants se sont querellés entre eux, avec moi, et il y a une amertume. Il y a une solitude. Ça, c'est la sagesse humaine. Hein. C'est ma propre sagesse, ça. Mais la sagesse de Dieu, elle, c'est vrai qu'elle n'est pas naturelle puisqu'elle vient de l'extérieur. Mais c'est la bonne sagesse. Elle demande un effort de la foi. C'est-à-dire, il faut accepter de confier sa vie à quelqu'un d'autre. C'est ça le plus difficile. Mais ce quelqu'un d'autre, c'est pas n'importe qui. C'est le Seigneur lui-même, c'est le Créateur, c'est le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour moi. C'est le Seigneur Jésus qui a toute sagesse. Quand vous lisez les évangiles, regardez la sagesse de Christ. Est-ce que vous ne lui remettriez pas votre vie? C'est l'apôtre Pierre qui était pourtant un patron pêcheur. C'est quelqu'un qui gérait son business, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Il avait plusieurs barques, il vivait de la pêche, il avait des employés et son travail, c'était d'aller sur le lac de Galilée et de ramener du poisson, de le vendre au marché et gagner sa vie. Il devait avoir beaucoup de bon sens, il connaissait tout. C'est un homme mûr. Eh bien, Pierre a dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, Seigneur. Pourquoi Pierre a tout quitté pour suivre Jésus-Christ? C'est qu'il y avait en Christ quelque chose de supérieur. Et Pierre n'a jamais regretté, même s'il a renié hein, Jésus, il n'a jamais dit, je regrette d'avoir suivi Jésus-Christ. Il a fini sa vie comme serviteur de Dieu, persécuté, mais il n'a jamais regretté d'avoir accepté dans sa vie la pierre angulaire, comme il l'appelle, hein, Jésus-Christ. La sagesse de Dieu, elle est infinie, elle sait tout. Et Dieu sait à l'avance tout ce qui va se passer, donc si on lui confie notre vie, on confie à la bonne personne, parce que lui, il sait ce qu'il faut faire. Dieu veut le meilleur pour nous, ça aussi on a du mal à l'accepter. On pense que soi-même, on veut le meilleur pour soi-même. Si moi, je prends une décision, ça va être pour mon bien, normalement. Vous êtes d'accord ou pas? On prend pas une décision pour son mal, hein, ou alors on est fou, on est masochiste. Donc on prend une décision pour son bien, mais souvent le résultat, ce n'est pas la bénédiction. Parce qu'on s'est trompé dans notre décision, on n'a pas fait les bons choix. Sur le coup, on disait, oh, ça va bien se passer pour moi, parce que c'est moi qui ai pris la décision. Mais en fait, à la fin, ce n'est pas forcément une bénédiction. C'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse de Dieu pour nous dire ce qui est le meilleur pour nous. Là encore, ça demande de la foi, de la confiance, hein. Confiez votre vie à quelqu'un en disant, je sais que tu veux le meilleur. Ce n'est pas évident, mais c'est ça la foi. Et c'est ça la source de la bénédiction. La sagesse de Dieu est toujours juste. Dieu n'est jamais dans l'erreur, n'est jamais dans le mensonge, n'est jamais dans l'injustice. Tout ce qu'il fera, tout ce qu'il vous demandera ou me demandera sera juste. Et on pourra avoir une bonne nuit de sommeil avec une conscience pure quand on suit la sagesse de Dieu. Quand on suit la sagesse des hommes, on est dans le tortueux, hein, dans le mensonge. Et un mensonge essaie de rattraper un deuxième et un troisième. Et on n'arrive jamais à s'en sortir. La sagesse de Dieu est droite, elle est pure, elle est vraie. Dieu ne ment pas. Quand il fait une promesse, il tient sa promesse. Alors, il y a des principes que j'aimerais regarder. Quelques principes de base, ce n'est pas tous les principes, mais c'en est plusieurs qui sont très importants dans la parole de Dieu. Et peut-être ça va vous étonner, ce que je vais mentionner, mais... ce sera, je pense, utile pour chacun de nous, les jeunes comme les moins jeunes. Le premier principe se trouve en Éphésiens 6, 2. Et si vous avez votre Bible, je vous invite à prendre ce verset. Paul aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament, chapitre 6, verset 2 et 3. « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore, respecte, prends soin de ton père et de ta mère. Ça fait partie des 10 commandements. Pourquoi c'est si important aux yeux de Dieu? Parce que le père et la mère représentent Dieu, en fait, quelque part. Hein. C'est l'autorité pour l'enfant. Et si l'enfant est rebelle à ses parents, si l'enfant hait ses parents ou les déshonore, les méprise, il va mépriser Dieu en même temps, et toute autorité. Et quand quelqu'un méprise toute autorité, il n'a pas une vie bénie, ça je vous l'assure. Il est dans l'angoisse permanente. L'autorité, c'est ce qui nous protège. C'est ce qui nous donne un équilibre dans la vie. Et surtout l'autorité de Dieu. Honore ton père et ta mère, les deux. Mais souvent, ce que j'entends, c'est « Oui, mais t'as pas vu mes parents ?» Et justement, je n'ai pas besoin de voir tes parents, c'est un commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère. Il ne dit pas s'ils sont gentils avec toi, s'ils font tout ce que tu veux, s'ils te laissent passer tes caprices. Il dit honore ton père et ta mère, point. Parce que c'est un principe vital. Et même si mon père ou ma mère me bat, ou s'il est alcoolique ou s'il est horrible... Je fuis la maison, je fais quelque chose, mais je dois toujours l'honorer et le respecter. Et si je suis chrétien, je dois prier pour ce parent qui est injuste ou qui est violent. Et il dit, c'est le premier commandement avec une promesse, et la promesse, il la cite ensuite, « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » En Asie, hein, le respect des ancêtres fait partie de la religion et de la culture, et c'est peut-être poussé un peu loin, parce qu'ils adorent carrément hein, leurs ancêtres comme si c'était des saints ou des anges ou des êtres spirituels hein, qui les guident, même s'ils sont morts. Nous ne voulons pas vénérer, prier les morts, hein, c'est interdit dans la parole de Dieu. Mais nous voulons honorer nos ancêtres, les respecter, parce qu'un jour on sera aussi un ancêtre. C'est-à-dire quand vous avez 15 ans, oh, les parents, oh, les adultes, et puis quand vous arrivez à vous-même à 50 ans et que les jeunes vous méprisent, vous dites « Ah ben quand même, ces jeunes, c'est vraiment cette génération, c'est pire que tout. Hein. » Oui, mais rappelle-toi, toi, comment tu traitais les adultes hein, et tes parents. Et on va tous, peut-être pas tous, mais on va tous arriver à un certain âge hein, et avoir peut-être des enfants. Et là aussi, on aimerait qu'ils nous respectent. Le respect des parents. C'est un grand principe. Il y a dans la Bible une femme qui est extraordinaire à ce sujet, c'est Ruth. Il y a même tout un livre hein, sur Ruth. Ruth, c'était une Moabite, une femme qui n'était pas juive, mais elle croyait à Yahvé, elle croyait au Dieu d'Israël, parce qu'elle avait épousé justement un Israélite qui avait émigré dans son pays. Et puis, à cause des diverses circonstances, justement des mauvais choix de ces Israélites, tous les hommes sont morts dans la famille. Il ne restait plus que la belle-mère et Ruth et une autre belle-fille. Et donc les deux belles-filles et la belle-mère sont là. Et la belle-mère, qui s'appelle Naomi, dit: je n'ai plus rien à faire ici dans le pays de Moab. Tous mes enfants sont morts. Je n'ai que vous deux. Je vais retourner en Israël. Et donc elle décide de retourner dans son pays. Elle dit à ces deux femmes qui sont de Moab, elle dit: vous, menez votre vie, vous êtes libres, hein, vous êtes veuves, alors menez votre vie. Et Ruth dit: non, moi je veux te suivre. Et je te suivrai toi et je suivrai aussi ton Dieu. Et donc Ruth, elle a honoré sa belle-mère. C'est pas beau ça? Hein, les belles-mères ont une réputation terrible hein, dans nos pays. La méchante belle-mère, on dit, hein. C'est dans Disney ou je sais pas. Bon. Ruth a honoré Naomi comme si elle était sa propre mère. Elle a honoré son Dieu et elle a suivi Naomi. Et leur vie n'a pas été facile parce qu'elles sont arrivées, elles n'avaient rien. Elles arrivent là, il faut qu'on leur trouve un endroit à loger. Une veuve, elle ne peut pas faire grand-chose, surtout qu'elle était âgée. Et Ruth dit: je vais travailler pour toi, je vais essayer de faire plein de choses pour ramener de la nourriture à la maison. Et elle a été glanée dans les champs. Et comme le Seigneur bénit ceux qui honorent leurs parents, le Seigneur lui a fait rencontrer celui qui avait un droit de rachat sur elle, qui pouvait l'épouser et reprendre sa lignée. Et c'était Boaz, hein, ou Bouz, selon les traductions. Et Boaz est tombé amoureux. Non seulement il avait le droit de rachat, mais surtout il est tombé amoureux de Ruth. Et Ruth est tombée amoureuse de Boaz. Et Boaz a compris qu'il avait le droit de rachat par la providence de Dieu. Il y avait un autre qui avait droit de rachat avant lui, mais Dieu a permis que ce soit lui qui épouse Ruth. Et Ruth a été dans la bénédiction du Seigneur. Non seulement ça, mais ils ont mis au monde un fils qui était le père d'un certain Isaïe. Et Isaïe était le père d'un certain David. Et David est dans la lignée du Messie. Donc Ruth est entrée dans la lignée du Messie parce qu'elle a honoré sa belle-mère et sa famille. Et on voit là un exemple magnifique de la bénédiction de Dieu pour ceux qui marchent selon sa sagesse à lui, selon ses principes divins. Un autre principe qui n'est pas toujours facile à avaler, mais qui est pourtant dans la parole de Dieu, c'est 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, qui nous le dit. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'était une idole, hein, une sorte de Baal. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc, quelle est la réponse à toutes ces questions? Ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas de rapport, normalement, il ne devrait pas y avoir de jumelage entre Dieu et les idoles, entre le temple de Dieu et le temple des idoles, entre Christ et Baal. C'est l'opposé. Car nous sommes le temple de Dieu vivant, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, vous chrétiens, vous croyants, hein, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je ne vais pas trop développer, mais l'idée ici, sous un joug étranger, c'est de ne pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas dans la foi. C'est ce que dit clairement ce verset, ne pas se mettre sous un joug étranger. J'avais déjà expliqué que chez les Romains, il y avait une cérémonie de mariage où l'épouse passait sous un joug qui était mis au-dessus de la porte d'entrée du mari, de son époux, et en passant sous ce joug, elle acceptait de se soumettre à son mari et surtout au dieu de son mari, aux dieux de son mari. Et donc, une chrétienne qui épousait un Romain ou un païen, elle devait passer par cette cérémonie du joug et accepter les dieux de son mari. Pareil pour un homme aussi, hein. Mais donc ce joug étranger là, c'était littéral, hein. Ne vous mettez pas sous un joug. Et quand on se marie avec quelqu'un qui n'est pas dans la foi, on prend un énorme risque que cette personne nous entraîne vers ses propres dieux à lui. C'est pour ça que nous disons aux jeunes, et là je m'adresse à ceux qui ne sont pas mariés évidemment, ne prenez pas la première personne qui vous passe sous le nez. Choisissez et demandez à Dieu qu'il vous fasse rencontrer un chrétien, une chrétienne qui aime le Seigneur. Pas seulement un chrétien avec le nom chrétien, mais quelqu'un qui marche avec Dieu. Parce que tous les chrétiens ne sont pas bons, hein. C'est pas parce qu'on est chrétien que c'est bon. Il faut que ce soit quelqu'un qui aime le Seigneur, qui marche avec Dieu et que vous aimez et qui vous aime, sincèrement. Mais quand on fait le choix d'épouser un inconverti, comme on dit ici, hein, ou quelqu'un qui n'est pas dans la foi au Seigneur, on prend un grand risque. Et le Seigneur le dit, hein, séparez-vous, ne vous mettez pas sous ce joug. Salomon est l'exemple suprême dans la Bible, hein, de celui qui a fait cette erreur. Il n'a pas fait qu'une fois, lui, il a fait des dizaines de fois, puisque en 1 Rois, chapitre 11, hein, il nous a fait un peu un compte-rendu de sa vie sentimentale et familiale. Premier livre des rois, je vais vous le lire, dans l'Ancien Testament, chapitre 11, verset 11. L'Éternel dit à Salomon, verset 1, excusez-moi, je me suis trompé. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles et ne viendront point chez vous. Elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Et maintenant, verset 3, « Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. » Ce que Dieu avait annoncé s'est arrivé dans la vie de Salomon. C'est pour ça que Dieu ne veut pas. Dieu veut qu'on partage la foi avec son conjoint. Avec son conjoint, on partage tout. On partage les choses les plus vitales, essentielles de sa vie. Si on ne peut pas partager sa foi, c'est difficile, hein? C'est difficile. Ce n'est pas impossible. Et on voit Ruth qui est devenue croyante. On voit d'autres exemples, hein, dans notre monde, hein, d'incroyants qui se convertissent après le mariage. Et merci Seigneur pour ça, hein? Mais faire le pari, hein, qui va se convertir, c'est aller contre le plan et le principe de Dieu. Un autre principe, toujours par rapport à l'homme et à la femme, se trouve en 1 Pierre 3, première épître de Pierre, au chapitre 3. Pour l'épouse chrétienne, il est dit, verset 1, « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. » Afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Là, il y avait des femmes, alors là, c'était un autre cas, des femmes qui s'étaient converties au Seigneur Jésus, mais le mari, lui, ne s'était pas converti. Donc là, elle n'a pas choisi, hein, c'est arrivé comme ça. Et il dit, si votre mari n'obéit pas à la parole, ne lui cassez pas la tête tous les quatre matins à lui expliquer l'évangile, gagnez-le sans parole, par votre conduite, par votre amour, par votre patience, par votre soumission. La soumission dans la Bible, ce n'est pas quelque chose de servile, c'est se mettre en dessous volontairement, c'est-à-dire se mettre au service de l'autre. Mais attention, les maris ne sont pas en reste. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. On voit ici qu'il y a un obstacle à la bénédiction. Lorsque dans le couple, le mari et la femme ne jouent pas leur rôle correctement, c'est-à-dire la femme est insoumise ou rebelle ou veut tout diriger et le mari n'aime pas et ne respecte pas son épouse. Quand chacun fait ce qu'il a à faire selon le Seigneur, le couple avance et la bénédiction de Dieu est là. Quand le couple ne va pas, il y a un obstacle aux prières. Et là, il faut vite régler la chose. Il ne faut pas laisser s'éterniser un problème de couple. S'il y a une chose qu'il faut régler le plus vite possible, c'est son problème de couple. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que le temps ne fait que pourrir. Mais quand un chrétien et une chrétienne s'aiment dans le Seigneur et font tout pour que ça marche, parce qu'ils ont chacun, le mari veille sur son épouse, il la respecte, il l'honore, il l'honore, ça veut dire il l'élève aussi, hein? Et l'épouse, de son côté, fait pareil, elle honore son mari, elle l'élève aussi, elle l'aide, elle est vraiment une aide semblable, comme dit la Bible, hein, dans la Genèse. Là, ça marche bien. Il y a une bénédiction spéciale. Un autre principe se trouve en Proverbe 11, 3, Proverbe de Salomon. Chapitre 11, verset 3, l'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. L'intégrité, l'honnêteté, coûte que coûte. Ça devient rare aujourd'hui. Dans les infos américaines, il y avait ce joueur de basket qui s'est donné une gifle lui-même pour faire croire à une faute. Alors quand vous regardez l'image comme ça à la vitesse normale, vous avez l'impression qu'il tombe comme ça en arrière et que c'est l'autre joueur qui l'a cogné, donc il a obtenu sa faute. Mais au ralenti, il y en a qui se sont rendus compte qu'il est en train de courir comme ça, et puis à un moment, il se met vraiment une gifle tout seul, comme ça, et il tombe en arrière, et puis après, il a mal, il s'essuie. Si ce n'est pas le comble du mensonge, ça, se donner une gifle sur un terrain de basket pour faire croire à une faute, c'est comme si le footballeur se mettait un coup de pied. Je pense qu'ils ont déjà dû faire ça, les footballeurs, c'est les spécialistes. On est dans une civilisation du mensonge, hein, où pour se tirer d'affaire ou pour gagner, on va mentir, mentir, mentir. Il y a un homme qui a été honnête coûte que coûte. Dans la Bible, c'était Joseph, qu'on trouve dans la Genèse, 37 à 50. Joseph était tellement honnête que ses frères l'ont haï, hein, ils étaient jaloux de lui et ils l'ont jeté dans une citerne pour qu'il meure, et finalement, ils n'ont pas osé le tuer, ils l'ont vendu en esclavage, et sa vie a été compliquée très, très vite avec ça. Hein. Il a été vendu en esclave, mais il a été honnête, il a fait confiance à Dieu, même en esclavage. Et là, il était chez un général du Pharaon, il s'est bien occupé de la maison, il a tout fait, puis c'est la femme qui a voulu coucher avec lui, et il a refusé, comme il a voulu être honnête envers Dieu et envers son maître, il dit... Sa femme l'a accusé de viol et s'est retrouvé en prison. Et là, en prison, plutôt que de maudire Dieu et les hommes, il a servi le Seigneur et le chef de la prison lui a même remis les clés, ce qui est un comble aussi. Hein. Le prisonnier qui garde les clés, qui garde les autres prisonniers. Et là, Dieu l'a béni dans cette prison et il a pu décrypter un songe qu'avaient eu deux autres prisonniers. Et il a dit, quand la chose va vous arriver, puisqu'il avait la sagesse de Dieu pour décrypter ses songes, quand la chose va arriver, souvenez-vous de moi, hein, que j'étais en prison et que je vous ai annoncé ces choses. Oui, oui, et puis la Bible dit qu'ils ont complètement oublié. La chose est arrivée comme ça avait été dit, puis ils ont complètement oublié Joseph. Et il est resté là encore des années, Dieu l'a béni, il a servi Dieu, il a été honnête, coûte que coûte. Et puis un jour, finalement, un des hommes s'est souvenu de Joseph, lorsque le pharaon a eu un songe, angoissant hein, avec les fameuses vaches maigres et les vaches grasses. Hein. Il dit, mais moi, je connais quelqu'un qui peut lire les songes par la sagesse de Dieu. Il doit être encore en prison. Et oui, il était encore en prison. Et on l'a sorti de sa prison. Et là, il est devenu le second du pharaon, Joseph. Dieu l'a béni. On pourrait dire, mais dis donc, le pauvre, il a eu que des ennuis, Joseph. En fait, dans les ennuis, Dieu le bénissait quand même. Partout où il était béni, et il bénissait les autres surtout. L'honnêteté, coûte que coûte, dans votre travail, dans votre couple, avec vos enfants, avec vos collègues, pas de mensonge, l'honnêteté. Ne mentez pas les uns aux autres, dit la parole de Dieu. Oui, mais comment je vais m'en sortir si je ne dis pas un petit mensonge là? Parce que là, je suis coincé. Jésus a dit, la vérité vous rendra libre. Et on pourrait inverser, hein, le mensonge vous rendra esclaves, hein, c'est-à-dire avec le mensonge, vous vous attachez les mains tout seul, hein, parce qu'après, vous ne vous en sortez plus. La vérité, même si elle vous coûte, est meilleure. Un dernier exemple, un dernier grand principe, on le trouve en 1 Chronique 4:10. Vous savez que l'Ancien Testament est une source de leçons spirituelles, hein, pour nous qui sommes au Seigneur. 1 Chronique 4:10, c'est la fameuse histoire de Jabès. Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Pourquoi il s'appelait Jabès? On voit au verset 9, il était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabès en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Nous avons vu, hein, que l'enfantement peut être parfois très douloureux, très dangereux même pour la femme et pour le bébé. Et la maman de Jabès a dit « J'ai beaucoup souffert pour t'avoir, alors je vais t'appeler Jabès », qui est un mot hébreu qui est lié à la souffrance, à la douleur. Et lui, sa prière, c'est quoi? Bénis-moi, que ta main soit avec moi et préserve-moi du malheur, que je ne sois pas dans la souffrance. Il dit, Seigneur, je suis né dans la souffrance, mais veuille me préserver de la souffrance. Jabès aurait pu vivre toute sa vie en disant, mais moi, peut-être il était prématuré, on ne sait pas, hein, ce qui lui est arrivé. Voilà, moi je suis né dans la douleur et c'est dur la vie et je vais devenir un brigand ou je vais pas croire en Dieu parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, Dieu ne peut pas lui faire confiance. Non. Jabès, c'est un homme de prière, il demande, il prie. Seigneur, plutôt que de réagir à la douleur, je vais demander que tu m'épargnes, Seigneur, je vais demander que tu me bénisses. Dieu veut nous bénir, alors il faut lui demander, il faut prier, avec sincérité. Seigneur, donne-moi la bénédiction, épargne-moi des malheurs. Seigneur, veille sur ma famille, sur mes enfants, sur moi. Il faut demander, vous recevrez, dit la Bible. Et Jacques dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez mal en plus, dans le but de satisfaire vos passions. Alors, il nous faut compter sur Dieu, même s'il y a la douleur au départ, ne pas réagir avec la sagesse humaine, mais réagir avec la foi, comme l'a fait Jabès. Et il a été béni, puisque Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. J'aimerais terminer ce matin avec le principe des principes qui s'adresse à tout homme et toute femme, pas seulement les croyants. Et c'est une parole de Jésus en Matthieu 16, 26. Pour avoir une vie bénie, Matthieu 16, 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Aujourd'hui, les hommes, pour être bénis, veulent gagner le monde. Ils veulent gagner plein d'argent. Ils veulent gagner plein d'amis ou plein de maisons ou plein de voitures ou plein de je ne sais pas quoi. Et ils pensent que c'est ça la bénédiction, que c'est ça le bonheur. Il y a de plus en plus aussi le culte du corps. Hein. Je suis frappé par l'augmentation, hein, de ce culte du corps qu'on trouvait chez les Romains au temps de Jésus. Et où on s'occupe de son corps, son corps, son corps, et on néglige ce qui est plus important, l'âme. Jésus dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Bien sûr, notre corps est important, Dieu nous l'a donné, il faut en prendre soin. Mais si je néglige mon âme, je passe à côté de la vie, je passe à côté de la bénédiction, et surtout, le jour où je meurs, je serai perdu pour l'éternité. Si je perds mon âme, je suis perdu éternellement. Comment gagner son âme? Comment sauver son âme? L'évangile est simple, sauver son âme et être justement dans la bénédiction, dans le salut, eh bien, c'est de mettre sa confiance en Dieu et en Jésus-Christ, le Sauveur. Jésus-Christ est mort pour sauver notre âme. Qu'est-ce qui perd notre âme? C'est le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Et ce péché ne peut pas être effacé par quoi que ce soit d'humain, de terrestre. Il n'y a que la foi au sang précieux de Christ qui a coulé sur la croix. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut effacer ce péché de notre âme et nous donner une âme neuve, une âme pure, une âme renouvelée, une âme sauvée, de pouvoir dire « Je suis sauvé. Si je meurs, je vais au paradis avec le Seigneur parce qu'il a sauvé mon âme, il a racheté mon âme. » Mais si vous occupez de tout sauf de votre âme, eh bien, vous serez perdu pour l'éternité. Vous pourrez peut-être être riche, impressionner les autres par votre argent, mais vous aurez perdu l'essentiel. Que le Seigneur nous parle, qu'il nous montre le vrai chemin de la sagesse. Ne vous confiez pas en votre propre sagesse, mais confiez-vous en l'Éternel. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Terminons par la prière et puis ensuite un cantique. Merci Seigneur parce que tu veux nous montrer le chemin, la voie de la bénédiction, la voie du salut. Ce chemin, c'est Christ, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous voulons mettre toute notre confiance en toi. Tu as prouvé ton amour pour nous en mourant sur la croix. Tu as prouvé ta puissance sur la mort en ressuscitant. Tu as prouvé ta sagesse avec tes paroles relatées dans les évangiles, Seigneur. Tu as prouvé que tu es le Seigneur et nous voulons mettre toute notre confiance en toi pour notre vie. Quand c'est moi qui prends les décisions, ça se passe mal. Quand ça vient de toi, Seigneur, les choses se passent bien. Et merci, Seigneur, de ce que tu ne nous laisses pas dans les ténèbres, mais tu veux nous guider dans tous les domaines de notre vie. Nous voulons te confier les clés de notre vie, Seigneur, le volant. Et nous voulons te suivre. Tu es le berger, nous sommes la brebis. Et Seigneur, conduis-nous vers les verts pâturages, vers une vie de bénédiction qui bénit les autres et qui est aplanie elle-même, qui est droite. Seigneur, enlève les détours, les virages et les impasses. Protège-nous, avertis-nous et merci de tes avertissements dans la parole de Dieu. Merci aussi pour les exemples que nous avons vus dans l'Ancien Testament. Et nous voulons imiter ces frères et ces sœurs. Et je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen.